Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des démarches pro-libres dans l'éducation, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Vincent Calam sur le thème de la légende dorée de la communauté spontanée. Et en fin d'émission, peut-être la présence exceptionnelle de Luc pour sa chronique sur le thème « Je suis suprémaciste ». Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 février 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission pour le démarrage, Adrien Bourmeau et pour la suite, Étienne Gonu. Bonjour les amis.
Salut.
Salut.
Pour participer à notre conversation aujourd'hui, 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46, ou via le salon web de la radio sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Tout de suite, place au premier sujet. Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre, c'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent.
Bonjour Fred.
Alors le sujet du jour est intitulé « Viens à l'aventure avec nous ».
Oui, alors aujourd'hui je vais m'amuser à prendre le contre-pied de ma chronique précédente où j'avais dit tout le bien que je pensais du travail des graphistes. Non, bien sûr que je vais en dire du mal. Évidemment, seulement le danger d'un graphiste trop réussi qui s'est confiné par se demander si c'est trop beau pour être vrai. Alors, je vais prendre pour exemple le site Contributopia, qui est un projet porté par Framasoft. Alors, le graphisme du site est très joli, original, change des graphismes habituels car il s'appuie sur des dessins qui sentent bon le crayon et l'aquarelle. Ils apportent une chaleur souvent absente des images trop lisses faites par ordinateur. Bref, je le trouve très réussi.
Alors, je vais juste préciser donc, que Contributopia, le site, c'est contributopia.org et Framasoft, c'est framasoft.org, ce qui permet aux gens de découvrir ce site basé sur des graphismes, aquarelles et crayons. Alors, pourquoi est-ce trop beau pour être vrai? Le projet Contributopia n'est pas une réalité?
Ah, si, si. Non, de toute façon, loin de moi dans cette chronique, l'idée de porter un jugement sur le projet lui-même. Si je pars de l'exemple de Contributopia, c'est que le style du dessinateur entre manga et fantasy m'a évoqué le vieux souvenir d'un jeu de rôle auquel je jouais dans les années 80, ça date. Bon, alors, l'évocation d'un jeu de rôle dans une chronique sur l'informatique libre mérite quelques éclaircissements. J'explique, dans les jeux de rôle, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, de nombreuses situations de jeu sont résolues par des jets de dés. Le joueur explique au maître du jeu ses intentions, par exemple grapper un lierre de nuit pour atteindre le sommet d'une tour, et celui-ci évalue la probabilité de réussite de l'action en appliquant des bonus ou des malus suggérés par les règles du jeu. Alors, dans mon jeu de rôle en question, il y avait une table indiquant les bonus ou malus à appliquer lorsqu'on voulait recruter des serviteurs avant de partir en expédition. La table proposait différentes offres de recrutement avec chaque fois un commentaire sur la pertinence de l'offre. Donc ça allait du très facile, avec un salaire où on promettait un salaire de plusieurs pièces d'or par jour, en passant par du moins certain, comme on proposait une part de butin à la fin de l'expédition. Et ça terminait par, là où je voulais en venir, par l'offre de recrutement « Viens à l'aventure avec nous ». Cette offre était qualifiée d'absurde par le jeu et était affublée d'un malus de moins 70 au jet de dés. Voilà ce que m'a un peu évoqué les dessins de Contributopia. Viens à l'aventure avec nous.
Alors, avant de te poser une question sur la suite, le jeu de rôle, c'était lequel?
C'était jeu de rôle des Terres du Milieu, JRTM pour les intimes.
D'accord, donc de l'univers de Tolkien.
Tout à fait.
Ok. Donc pourtant, de nombreux projets libres sont nés comme ça. Viens à l'aventure sur ce projet libre que je viens de lancer.
Oui, bien sûr. Comme exemple qu'on connaît, c'est le message de Linus Torvalds qui est déposé sur le réseau Usenet en 91, où il annonce qu'il a écrit en amateur un petit système d'exploitation. Et donc ça fait vraiment partie des mythes fondateurs du logiciel libre. Alors on peut citer de nombreux exemples, tant et si bien que « Viens l'aventure avec nous » pourrait même être une devise des projets libres. Ce que je voulais simplement rappeler, c'est qu'au départ, la probabilité est faible, comme le rappelait le tableau du jeu de rôle. Absurde même. Mais au jeu, si on faisait un 100 au dé, on pouvait tenter, on obtenait une réussite critique et on pouvait se retrouver suivi par une forte troupe. Donc, je pense que rien n'est joué. D'ailleurs, on peut considérer comme normal que pour un projet qui prend de l'ampleur, bon nombre à côté végète. C'est la loi du genre et c'est pas seulement le cas du logiciel libre. Dans le monde associatif, dans le monde militant, un mouvement peut prendre de l'ampleur alors qu'un autre s'essouffle. C'est parfois un mystère et la chimie est compliquée. Donc ma seule réserve, c'est le sens de la chronique, c'est qu'il faut pas montrer une image trop idyllique de la communauté, entre guillemets la communauté, quand on parle du logiciel libre. De même que dans les jeux de rôle, les auberges ne sont pas pleines de candidats à l'aventure. De même, l'Internet n'est pas plein de personnes prêtes à vous rejoindre parce que vous publiez de code, ne serait-ce que tout simplement parce que chacun a ses priorités, ses projets en cours et ne vous a pas attendu pour avancer de son côté. Alors, à mon petit niveau, j'en avais fait l'expérience l'année dernière. J'avais envoyé un message sur la liste libre association de l'April présentant des logiciels sur lesquels je travaille. J'ai eu des retours sympathiques et chaleureux, mais bien sûr, ça n'a pas déclenché une avalanche de contributions. Rien de surprenant, on va dire, en termes de probabilité. J'ai dû faire un 15 à mon jet de dés, tout simplement. Bon, il faudra tout simplement que je réessaye dans une autre auberge. Qui sait, un jour, j'obtiendrai aussi une réussite critique à mon jet de dés.
Bah écoute, Vincent, j'ai envie de te dire, on va lancer les dés une fois. Tu viens de parler d'un projet. Explique-nous, c'est quoi ce projet sur lequel tu travailles ?
Alors, c'est le projet sur lequel je travaille pour la Fondation Charles-Paul Meyer, qui était un logiciel de gestion de fichothèque, donc de fiches documentaires, donc d'abord utilisé en interne pour la Fondation, pour ses bases de données internes, et également utilisé pour des sites de ressources documentaires. Et voilà. Et l'année dernière, j'avais fait un gros travail pour essayer de le rendre un peu plus accessible aux utilisateurs, hein, des nouveaux venus, on va dire.
Et aux contributeurs et aux contributrices aussi, si j'ai bien compris.
Voilà, tout à fait.
Donc ton auberge est ouverte, mais pour l'instant, tu n'as pas eu beaucoup de candidats et de candidates.
Voilà, disons, il faut que je fasse le tour des auberges et peut-être que je propose aussi une bière avec simplement « Viens à l'aventure avec nous
». Ou une cervoise, ou effectivement, à consommer avec modération. On rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Comment s'appelle ce logiciel ?
Alors, BDF, et c'est un logiciel de gestion de fichothèque. C'est fichothèque.net.
Voilà, fichothèque.net. Donc si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour l'utiliser, allez sur fichothèque.net. Et éventuellement, si vous voulez contribuer ou offrir une boisson à Vincent, quelle que soit la boisson, il est évidemment ravi. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Oui, pour l'instant, les boissons, c'est moi qui les offre.
Et alors, vous pouvez échanger une boisson contre une fondue. Vincent est un grand spécialiste de fondue. On a hâte que les conditions sanitaires puissent nous permettre de refaire des fondues. Mais ceci dit, une petite aparté. Donc fichothèque.net, vous pouvez découvrir ce projet. Ben écoute, merci Vincent. Donc c'était la chronique Jouons collectif de Vincent Calam, donc qui est bénévole à l'April. Merci Vincent, puis bonne fin de journée.
Merci, bonne journée.
Bien sûr, tu peux rester avec nous pour le sujet principal. Alors nous allons faire une petite pause musicale. Alors nous allons écouter un morceau qui, je crois, avait été suggéré par Vincent dans une précédente émission qui s'appelle « La valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est ». On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter la valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les démarches pro-libres dans l'éducation. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 50... Non, pas du tout, c'est pas ce numéro-là, donc je vais pas le dire. Je sais que c'est pas le bon, je sais pas pourquoi il est noté comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et ce sujet long va être animé donc, par ma collègue Isabella Vanni, à qui je passe la parole immédiatement.
Merci Fred, bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on a avec nous Adrien Bourmont, bénévole à l'April et étudiant du supérieur en informatique, et Baptiste Lemoine, ingénieur freelance en recherche et développement logiciel, parent d'élèves, également bénévole à l'April. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les deux, vous êtes vus proposer, voire imposer, un service non libre et non respectueux des données personnelles, soit par votre établissement éducatif, soit par celui de votre enfant. Et vous avez alors entrepris des démarches pour alerter vos interlocuteurs sur les enjeux d'une informatique libre et loyale. Nous allons en savoir plus lors de notre échange. Donc, bonjour.
Salut.
Bonjour. Pour commencer, je vous propose de vous présenter très bien brièvement. Adrien, tu veux commencer ?
Oui, alors moi, je m'appelle Adrien Bourmont, donc je suis bénévole à l'April, à la régie de LAV d'aujourd'hui, juste avant qu'Étienne prenne le relais. Également, co-animateur système du Chapril pour le service XMPP et étudiant en informatique à Paris.
Merci. Et Baptiste ?
Ouais, donc moi, je fais des sites web en tant que freelance depuis un paquet de temps. Je suis aussi bénévole au Chapril pour le service Mobilisant.
Merci beaucoup. Donc, on peut rentrer dans le vif de la question. Comme je disais dans l'introduction, votre établissement ou celui de votre enfant vous a proposé, voire imposé, un service non libre, non respectueux de vos données personnelles. Donc, je veux savoir de quel service s'agissait. Baptiste, tu veux commencer ?
Alors oui, pour ma part, c'est dans l'école maternelle de ma fille qu'on nous a imposé l'utilisation du logiciel Classroom, qui est donc un logiciel qui permet de faire un blog pour la classe et d'échanger donc avec les professeurs.
Très bien. Et quelle a été ta réaction ? Tu as compris tout de suite qu'il s'agissait d'un logiciel propriétaire qui peut avoir des problèmes aussi côté respect des données personnelles, côté RG.
Tout à fait, oui. Alors, on a commencé par avoir à l'inscription, on nous a donné notre mail pour parler entre professeurs et parents. Et ensuite, par mail, on nous a dit, tiens, inscrivez-vous là. Donc, c'était un petit peu comme Gaston Lagaffe qui dit, je t'ai fait un courrier pour te dire que je t'ai envoyé un mail. Donc ça, c'était un peu drôle au début. Et ensuite, je suis allé voir un petit peu le logiciel, en quoi il consistait. Et j'ai tout de suite vu dans mon navigateur qu'il y avait un certain nombre de trackers qui était présent et des choses qui étaient impossibles à désactiver. Donc je me suis dit, ça m'a rappelé ce que j'ai vu du RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données, et je me suis dit qu'il y avait un petit problème. Donc je suis allé un peu plus loin pour voir ça, et j'en ai alerté l'enseignante qui a ensuite demandé à ce qu'on se rende compte pour en parler.
Si j'ai bien compris, le logiciel, il n'y a pas eu de choix. Si j'ai bien compris, on vous a dit, ça c'est le logiciel avec lequel on va
Exactement.
Communiquer, c'est bien ça ?
C'est bien ça, on nous a dit, inscrivez-vous là. Alors s'il y a eu une concertation, moi je ne l'ai pas eue. S'il y a eu une proposition d'autre chose, on ne les a pas vues. On était devant le fait accompli, on va utiliser ça. Maintenant, il faut vous inscrire là pour profiter de ce qu'on va faire avec.
Et il y avait une autre façon de communiquer avec les enseignants, c'est-à-dire les courriels étaient aussi envisagés ou c'était le seul canal ?
Tout à fait, oui. Il y a l'académie qui fournit des adresses mail spéciales aux enseignants qui ne sont pas leur adresse personnelle. Comme ça, ils peuvent diffuser auprès des parents sans être embêtés pour pas être embêtés sur la gestion des contacts. Donc il y a d'autres moyens de communiquer. Il y a aussi le carnet rouge qu'on donne aux enfants qui sont ensuite transmis aux parents. Parce que quand on est dans une classe avec plein de gamins, on ne peut pas discuter individuellement à la fin des cours avec les parents comme on le ferait avec une micro-crèche, par exemple, où il n'y a que 10 personnes. Et là, on a vraiment le temps de faire la transmission de ce qui s'est passé dans la journée. Donc là, il y a d'autres moyens de communiquer. Il y avait même l'email, qui est un moyen tout à fait simple et, et constructif de faire des échanges. Et ce qui a été choisi, c'était donc une solution, un logiciel privateur.
Est-ce qu'il y a eu une présentation exhaustive de ce logiciel ?
Il y a... Alors non. On a dû découvrir le truc en allant sur le site. Et c'est pareil pour les professeurs. J'ai eu un retour comme quoi les enseignants ont dû se débrouiller pour apprendre à s'en servir. Ils ont eu reçu d'abord une présentation de la part de gens qui font du marketing pour la boîte de Classroom. Et ensuite, on leur a dit, tiens, regardez, notre truc, il est vachement bien, c'est gratuit. Vous pouvez avoir plus de choses si vous payez. Et voilà. Donc, ils ont eu peut-être à un moment une présentation, mais c'est par un effet d'influence dans l'école que des gens se sont dit, ça serait bien qu'on utilise ça tous.
Ok, merci pour cette première présentation. Je vais passer la parole donc à Adrien. C'est de quoi logiciel propriétaire s'agissait dans ton cas ?
Alors nous, on a voulu nous imposer l'utilisation du logiciel Zoom. Donc en fait, tout simplement pour donner à la fois les cours, les TD, les TME, travaux machines encadrées, et également les examens. Donc tout ça a commencé d'abord par les cours. Où on nous a dit que les cours auraient lieu sur telle adresse, merci de vous y connecter à l'heure. Évidemment, sans avoir présenté avant quel était l'outil, sans jamais avoir expliqué ce qu'on allait y faire exactement. Ça s'est fait vraiment très très vite comme ça, tout simplement donnant l'adresse. Donc déjà, à partir de ce moment-là, j'étais réticent à utiliser le logiciel, j'ai écrit quelques mails à mes enseignants qui ne m'ont jamais répondu. Donc le moment où j'ai commencé un petit peu à m'exciter, c'est-à-dire que je me suis dit, il va falloir que je réagisse, que j'aille plus haut. Donc j'ai envoyé un mail au directeur de l'UE. L'unité d'enseignement, c'est la matière. Donc j'ai écrit un mail et il m'a répondu assez sèchement que c'était son choix et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. Donc j'ai été encore plus haut et j'ai envoyé un mail à la directrice des études de mon UFR. Et ce qui s'est passé est que au départ, elle a défendu son enseignant, et puis finalement, sous mes menaces de porter plainte auprès de la CNIL, ça a bougé et j'ai pu ensuite proposer des alternatives. Mais au départ, sans aucune concertation, ni même les syndicats des étudiants, ni même les représentants étudiants n'étaient au courant de ce choix de logiciel. Ça avait été fait en amont par les dirigeants de l'université, sans avoir consulté personne.
Est-ce que tous les professeurs ont proposé ce logiciel ?
Quasiment tous. Tous ont au moins cité ce nom-là. Certains ont décidé de faire autre chose, après avoir été soit contactés par moi, soit en ayant eux-mêmes réfléchi. Mais tous, au moins, ont déjà cité le nom du logiciel.
D'accord, donc moi ce que je voulais savoir, est-ce qu'ils vous ont expliqué, voilà, si j'ai bien compris, ils vous ont proposé, voire imposé ces logiciels sans les présenter, sans les expliquer pourquoi. Et normalement, il faut demander aussi un consentement éclairé aux personnes qui utilisent des logiciels, qui prévoient aussi l'utilisation des données personnelles. Et cette question aussi, ce consentement ne vous a pas été non plus demandé.
Et d'ailleurs, on ne m'a jamais orienté vers le délégué de protection des données ou quoi que ce soit dans ce style-là. Je ne sais toujours pas, à l'heure actuelle, qui est responsable de la collecte ou du traitement des données personnelles.
Et je crois que tu m'avais dit que tu avais essayé de le contacter.
J'avais essayé, oui. J'avais demandé à la directrice des études de m'orienter vers cette personne. Et jamais ça n'a été fait, puisqu'on ne m'a jamais répondu à ce sujet-là.
D'accord, c'est assez incroyable. En fait, je fais une petite parenthèse. Si vous allez sur Internet, je parle à nos auditeurs et auditrices, il y a des sites en fait qui expliquent, sous le site du ministère de l'Éducation nationale ou sous le site que la CNIL a consacré au numérique à l'école, à l'informatique à l'école, il y a des pages en fait qui expliquent qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Il explique qu'est-ce que c'est un délégué à la protection des données. Il y a des listes en fait avec tous les contacts, toutes les adresses de contact pour contacter son délégué. Ce délégué à la protection des données personnelles a vraiment la fonction de conseiller, de veiller à ce que les données personnelles soient respectées. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui, sur papier, sont mises en place pour sauvegarder en fait les données personnelles des élèves et des étudiants. Mais il y a quelque chose qui bloque, visiblement. Il y a une communication qui
passe pas. Tout à fait. Il y a eu plusieurs points qui n'allaient pas. Et alors, je tiens à noter quand même qu'on nous a demandé si on voulait s'opposer, enfin, si on voulait ou pas qu'on publie des photos de nos enfants dans Classroom. Alors, ça aurait pu être n'importe quel autre logiciel. Enfin, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce que la protection de l'image, bah, ça existe bien en dehors de l'utilisation d'Internet. Et alors, je me souviens plus si on me l'a demandé avant ou après que j'ai fait ma réaction par mail pour dire attention, méfiez-vous de ce truc-là quand même. J'ai repéré que ça respecte pas le RGPD, donc il faudrait peut-être que vous en parliez au supérieur. Et donc, on nous a bien demandé rayer la mention inutile entre j'accepte que qu'on publie des photos de mon enfant sur ce logiciel ou j'accepte pas. Ça on nous l'a demandé dans le carnet de correspondance. Donc, le cahier avec un petit imprimé en papier. Et c'est là que j'aurais bien aimé avoir l'historique vraiment précis de comment ça s'est passé, parce que c'était en septembre. Mais on nous a demandé, voilà, est-ce qu'on s'oppose ou pas. Et donc, en fonction de ça, il fallait ensuite qu'ils décident comment ils allaient interagir avec ce logiciel s'il y avait des parents qui s'opposaient au truc. Mais en fait, ça les a désorientés, parce que clairement, moi, j'ai marqué tout de suite, je veux absolument pas qu'il y ait des infos relatives à ma fille sur ce site et cette application. Parce qu'il y a un site et une application. Et donc, pour leur dire que c'était pas juste une lubie à moi, je leur ai fait un lien vers le rapport d'Exodus Privacy à propos de Classroom, donc de l'application.
Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est Exodus
Oui, alors Exodus Privacy, c'est une association qui examine tous les pisteurs qu'on peut trouver dans des applications. Donc eux, ils vont nous dire précisément, voilà les autorisations qui sont demandées par telle application, à quelles entreprises sont envoyées vos données, comment ça fonctionne. Tout ça, c'est des choses qu'on peut auditer relativement facilement. Et il y a bien sûr toute une partie qu'on ne peut pas auditer quand c'est privateur, à moins d'être considéré comme un criminel.
Très bien. OK. Ce que je voulais savoir... j'ai eu un moment de... Parce que je suivais qu'est-ce que c'était Exodus. J'ai eu l'occasion aussi de l'utiliser sur des applications libres. Pour ce qui concerne le droit à l'image dont tu parlais, c'est quelque chose qui existe, bien évidemment, au-delà des services informatiques qu'on peut proposer aux parents d'élèves. Et le droit à l'image est très cadré, ça aussi. C'est-à-dire que normalement, pour publier la photo d'un enfant, il faut l'accord des deux parents. Donc, il faut que ce soit indiqué précisément pour quel usage l'image sera utilisée. Donc, il faut qu'il y ait un cas spécifique
et aussi dans le temps.
Donc, il faut faire gaffe aussi. Donc, je voulais savoir est-ce que c'était fait dans les règles de l'art, la question sur le consentement pour le droit à l'image, pour ce qui te concerne.
Alors, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce que, voilà, du coup, l'intérêt, alors si j'ai compris bien, enfin, si j'ai bien compris le besoin qui était derrière ça, c'était de, suite au confinement, les parents voulaient voir ce que faisaient leurs enfants, ils voulaient les voir en images et ils voulaient que ce travail-là soit fait par des professeurs. Au début, moi, je me dis, bon, c'est un peu bizarre comme besoin, bon, il y a des parents qui l'ont, on peut peut-être trouver des moyens de l'avoir. Mais du coup, quand on fait des rapports visuels, alors, texte visuel qui dit, voilà, aujourd'hui on a fait ça, on a fait tel montage, on a appris, on a fait telle chanson, du coup, il y a des enregistrements qui sont faits. Et s'il y a des enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient inclus dans les enregistrements, c'est compliqué. Parce que la classe n'a pas une taille infinie, on ne peut pas prendre tous les angles qu'on veut. Quand on enregistre, voilà, on peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Et... théoriquement, même la main d'un enfant qui a dit je veux pas qu'il y ait des photos de cet enfant-là, on n'est pas censé la prendre en photo si les parents s'opposent. Et voilà, dès qu'on fait des trucs de groupe, c'est un peu compliqué à mettre en place vraiment. Donc, même si on veut bien faire les choses, c'est compliqué à respecter.
Très bien. Je passe à nouveau la parole à Adrien qui nous faisait un petit teaser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, au-delà de Zoom, il y avait aussi la possibilité d'utiliser un logiciel qui est libre, respectueux des données personnelles et qui, incroyablement ou pas, il était à disposition, c'est-à-dire il était déjà installé et disponible pour les professeurs. Tu peux nous en parler plus, s'il te plaît.
Mais en fait, donc, le problème venait du fait que la façon dont est organisée l'université, on a deux administrations. d'abord l'administration de l'UFR, donc qui est l'unité de formation et de recherche, et l'administration générale de l'université. L'organisation générale avait décidé d'acheter des licences pour Zoom, qu'il fournissait donc à tous les UFR, donc y compris l'UFR d'informatique, de physique, de chimie ou je sais pas quoi. Et il y avait l'administration de notre UFR, celui d'informatique, qui avait décidé, dont certains membres avaient décidé de mettre en place un serveur BigBlueButton dans l'ENT, l'environnement numérique de travail de l'université.
On va rappeler brièvement ce que c'est BigBlueButton pour les personnes qui ne connaissent pas.
BigBlueButton, c'est un outil de visioconférence avec un tableau intégré, possibilité de mettre une présentation, de faire du partage d'écran, avec un chat en live pour discuter rapidement ou poser des questions. Il y avait aussi des notes partagées intégrées. Voilà, il y a plein de choses très sympas avec. Et ça avait été mis en place sur Moodle. Donc le Moodle, qui est un logiciel qui est utilisé par quasiment toute l'université que je connais. Et ça avait été mis en place. Simplement, des enseignants s'étaient dit « Oh, j'ai le choix entre les deux propositions de l'administration. » Et beaucoup se sont tournés vers la proposition de l'administration générale qui, pour eux, apparemment, paraissait plus commode. Alors que ça demandait aux étudiants de créer un compte sur Zoom. Pourtant, avec BigBlueButton, on n'avait pas besoin de créer de compte. C'était déjà intégré dans nos mots de passe et comptes, enfin identifiants de l'ENT. Donc, personnellement, moi, j'ai pas compris quelle était la commodité supplémentaire, à part d'utiliser un truc américain parce que c'est américain.
Voilà. Ou parce que c'était déjà connu, ou parce que peut-être qu'il utilisait déjà à titre personnel. Mais surtout, ce que tu dis, c'est compliqué. Si au moment où la faculté met à disposition deux solutions. Les enseignants peuvent aussi avoir tendance à faire confiance aussi à ce que l'université propose.
Oui, tout à fait, puisqu'en plus, l'administration générale présente ce contrat comme évidemment tout à fait légal. Il est légal. Simplement, il ne précise pas qu'il faudrait pouvoir consentir ou non à l'usage des données personnelles, et aucun des enseignants n'a été lire les conditions générales d'utilisation. Aucun. Et aucun nous a présenté ça comme étant accepter les conditions d'utilisation du présent logiciel. Quand on nous a envoyé un lien Zoom, il n'y avait pas marqué « Attention, en utilisant Zoom, vous devrez créer un compte et donc accepter des conditions d'utilisation. » Alors moi, ça a été ma première réaction, c'est de dire « Vous me demandez de créer un compte sur un service qui dit qu'il va traiter commercialement mes données. Et si je ne veux pas, qu'est-ce que je fais ?»
Tout à fait. C'est assez incroyable parce que, si j'ai bien compris, dans les deux cas, les enseignants ont accepté cette solution sans même pas se poser trop de questions par rapport à cette question des droits, des données personnelles, de la protection des données personnelles. C'est-à-dire que, si je bien comprends, c'était un sujet qui n'était même pas dans leur radar de réflexion.
Ah bien sûr, c'est le genre de chose qui n'est absolument pas réfléchi, parce qu'il y a toute une chaîne de commandement qu'il faut suivre, en fait. Et quand on est dans l'éducation, alors de ce que j'en ai compris, c'est un peu comme l'armée. C'est faut pas tout le temps seconder les ordres qu'on nous donne au-dessus. Si on nous recommande tel ou tel truc, c'est même pas dans notre intérêt d'aller dire vous êtes sûr que machin, voilà, c'est direct chantage à l'emploi. Chantage à l'emploi, c'est encore quand ça se passe bien, d'après ce que j'ai vu. Et donc voilà, questionner, remettre en cause des choses qui viennent d'une hiérarchie qui a beaucoup de pouvoir sur les gens, c'est toujours compliqué. Et ça, c'est après, même dans n'importe quel métier qui fonctionne avec le même type de fonctionnement vertical. Rechercher des choses, c'est même pas de l'ordre du possible envisageable. Et même en dehors de ça, moi je ne les blâme pas non plus, parce que je sais que c'est très... Enfin, on est sous l'eau, quoi, quand on travaille avec beaucoup d'enfants, et même quand on ne travaille pas avec des enfants ou des jeunes adultes ou des adultes, c'est hyper compliqué de faire proprement de la recherche sur tout ce qui est possible. Il faut juste qu'on ait vent d'un truc, qu'on nous le vende bien, qu'on nous dise que ça existe, rien que proposer des existences d'alternatives, c'est des choses que les gens n'ont pas.
Tu parlais de hiérarchie, tu as même évoqué l'armée comme façon de fonctionner. Pourtant, si on remonte dans la hiérarchie, le ministère de l'Éducation nationale a diffusé un document, une circulaire, oui. Où il, pendant la pandémie, tout au début de la pandémie, donc on était au printemps 2020, où il faisait un focus très bien fait par ailleurs, très détaillé. Vous trouverez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui. C'était un focus à la fois sur Zoom et sur Discord. C'était pas sur Classroom, ouais, le logiciel dont tu nous as parlé. Mais voilà, c'est une circulaire qui a été réceptionnée par chaque académie et chaque académie l'a à son tour relayée. Mmh. Ça venait du ministère de l'Enseignement et c'était marqué ce type de logiciel est à proscrire.
Exactement, on vous interdit d'utiliser ce truc-là.
Alors, voilà, c'était pas marqué on vous interdit, il disait, voilà, c'est ça là, toute la nuance. Là, en français, c'est à proscrire, ça veut dire que je vous recommande pas de le faire. Après, voilà, est-ce que ça a un pouvoir impératif, légal impératif, contraignant, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez détaillé, il y a toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser ces logiciels. Et même la CNIL a fait une page donc, sur le site qu'elle consacre à l'informatique à l'école. À nouveau, vous trouvez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui, où c'est très, très bien détaillé. Qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données? Qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner les enseignants, les parents, etc.? Donc, les informations sont là.
Exactement. Oui.
Mais après, il y a aussi le choix des outils et puis il y a aussi le fait que chaque académie, chaque collectivité devrait aussi mettre à disposition un ENT, donc un espace numérique de travail. Et il y a aussi cet aspect, il y a quelques collectivités qui essaient de le faire dans les règles de l'art et d'autres qui n'ont pas les moyens ou la volonté de le faire. Donc il y a plusieurs choses... Je dis ça juste pour ne pas mettre tout sous les épaules des enseignants.
Bien sûr, oui.
Et puis d'ailleurs, moi je constate quand même que l'éducation nationale a essayé un petit peu de pousser vers le logiciel libre, puisqu'ils ont mis en place app.education.fr. La région Île-de-France aussi a mis en place des choses, notamment une instance BigBlueButton qui est sur l'ENT d'Île-de-France. Donc tout n'est pas non plus complètement à jeter. Il y a des choses bien qui ont été faites. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a aussi des chefs d'établissement qui prennent des initiatives autres que ce qui a été proposé par le ministère.
Tu as très bien fait de rappeler on l'a mis dans la référence.
Ouais.
Et parce que c'est quelque chose qui a été développé, c'est une plateforme qui a été développée par des agents de l'État et qui, en fait, chaque académie, après, pouvait proposer les mêmes services sur une plateforme dédiée. Et il y avait justement des outils complètement libres à disposition des enseignants pour leur travail. Donc, une magnifique... c'était quelque chose de très important pour le mouvement du logiciel libre en France et qui a vu la lumière aussi dans une période compliquée pour tout le monde pendant la pandémie. Donc c'était vraiment une très très belle très très belle nouvelle. On va poursuivre donc notre échange. On a parlé un petit peu des logiciels qu'on vous a proposés, de votre réaction, et je laissais savoir un petit peu quelle démarche vous avez mise en place. D'ailleurs, tu en as déjà un peu parlé, pour essayer de décoincer un peu la situation. Parce que toi, si j'ai bien compris, tu ne pouvais pas assister au cours et tu ne pouvais même pas donner l'examen, vu que
tu ne voulais pas
que tes données soient commercialisées. Quoi.
Ouais, au départ, je n'ai pas pu assister au cours en direct. Donc, en négociant un petit peu, j'ai dit quand même que j'avais tout à fait le droit de refuser de faire ce partage de données personnelles, en plus pour un traitement commercial. On m'a proposé de m'envoyer les cours en différé. Donc ça s'est fait pendant un mois ou deux peut-être. Donc là, on est au tout premier confinement, on est en mars de l'année dernière. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté de m'envoyer les cours, ou on m'a envoyé les cours via Zoom en fait. C'est arrivé ça. C'est-à-dire qu'on m'envoie un lien Zoom différé, qui est un lien Zoom qui contient une vidéo. Évidemment, mes anti-trackers qui sont sur mon navigateur m'ont permis d'avoir une page blanche. C'était super.
C'est un beau cours.
Donc j'ai fini par demander à des camarades de m'envoyer les cours, tout simplement. De les télécharger pour moi sur ce lien Zoom, puisque eux n'avaient pas de problème à l'utiliser, et à m'envoyer le logiciel, le logiciel, la vidéo. Donc franchement, bon, c'était assez moyen. D'autres yeux qui avaient commencé à utiliser Zoom ont fini par écouter mes arguments, et certains professeurs sont tombés d'accord avec moi et m'ont proposé des alternatives. Ils ont proposé d'être sur les deux en même temps, ou alors même quelques-uns qui ont carrément basculé sur le BigBlueButton. Mais parce qu'en plus, on disait tout à l'heure qu'il y avait app.education.fr pour l'enseignement secondaire, mais dans le supérieur, il y a aussi des initiatives globales que j'ai découvertes assez récemment. La semaine dernière, j'ai découvert qu'il y avait une instance Big Blue Button du CNRS qui était mise en place pour les maths et donc qui est accessible par tous les professeurs qui sont connectés au Grenater. Grenater, en fait, c'est le grand réseau internet des chercheurs et enseignants-chercheurs en France et un peu dans le monde, en fait. Et on peut, avec ces identifiants-là, se connecter sur cette instance Big Blue Button et donner des cours. Donc, ça s'appelle greenlight.lal. cloud.mat.cnrs, donc je le mets là dans le salon. Donc c'est une instance du Blue Button qui est ouverte à tous les enseignants du supérieur quand ils sont titulaires. Malheureusement, quand ils sont contractuels, ils n'ont pas toujours les habilitations pour le faire, mais en tout cas tout titulaire peut le faire. Donc tout simplement, j'ai proposé ce genre d'alternative, j'ai même proposé cette instance là par exemple, et certains profs ont été d'accord pour l'utiliser. Sinon, pour le reste, j'ai tout simplement dû demander à des camarades de m'envoyer les vidéos.
Ouais, c'est pas génial quoi, pour un étudiant de voir ses droits à suivre des cours bafoués de cette façon. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Et je laisse la parole à Fred qui connaît le titre et qui pourra vous la présenter.
Et en plus, c'est moi qui l'ai choisi. Juste avant ça, donc un soutien absolu au personnel de l'éducation nationale et je vous encourage à écouter l'antenne libre que j'avais consacrée donc le 24 novembre dernier avec notamment trois enseignantes de Seine-Saint-Denis qui étaient intervenues par téléphone, enfin même quatre d'ailleurs je crois, voire même cinq peut-être parce qu'il y avait aussi Pablo IVX, Vincent Xavier. En tout cas voilà, on avait consacré deux heures d'émission le 24-11-2020 aux conditions des profs dans cette période très compliquée, donc soutien absolu au personnel de l'éducation nationale. Et donc on va écouter une musique qu'on a déjà écoutée, mais je l'adore, vous allez bouger, je vous promets, vous allez bouger. Ça s'appelle Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 4 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. We'll be right back.
Ah, je vous avais dit que ça allait bouger. Hein. Nous venons d'écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. La musique est disponible sous licence libre. Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. CC by SA. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui concerne donc les démarches pro-libres dans l'éducation nationale avec Isabella Vanni, Baptiste Lemoine, Adrien Bourmeau. Je vous repasse la parole.
Merci Fred. Donc on a présenté un petit peu la situation vécue par nos deux personnes invitées, les démarches qu'ils ont faites auprès de leurs enseignants, auprès de leur établissement. Bah, je voulais savoir un petit peu comment ça s'est terminé finalement cette expérience. Par exemple, Baptiste, quand tu as interpellé l'enseignante plus précisément, Comment ça s'est terminé par rapport à l'usage que tu voulais pas faire de classroom?
Alors il y avait un bain de sang et tout, et non. on a discuté. J'ai commencé par faire de la recherche sur qu'est-ce que je pouvais lui proposer comme alternative. Donc
Je
connaissais quelques trucs du style si on veut faire un blog, ben voilà, on peut faire ça avec plein de choses. J'ai même vu qu'il y avait des lycées qui utilisaient Mastodon pour communiquer par classe. Ils faisaient voilà, des espaces privés et tout le monde n'y avait pas accès. Il y avait Etalab qui avait mis en place un truc pour ça. Et donc voilà, j'ai
recherché. Tu peux rappeler qu'est-ce que c'est Etalab ?
Alors Etalab, c'est la section Open Data du gouvernement. Donc c'est ceux qui font data.gouv.fr. Et donc c'est un espace où on peut trouver énormément de données sous licence libre. Donc voilà, c'est par exemple à partir de là qu'on peut suivre les infos sur le Covid par le ministère de la Santé, c'est sur ce site-là. Et donc voilà, il y a plein d'administrations qui sont invitées à publier des documents publics là-dessus. Et donc voilà, j'ai fait des recherches, donc je me suis souvenu de ce que faisait Framasoft avec des Googleisons, parce qu'on peut tout à fait utiliser ces outils-là pour faire des tas de choses, que ce soit de la rédaction, de la publication, de la visio. Comme tu disais, voilà, on peut utiliser Big Blue Button, il y en a plein qui sont déjà en place, par des chatons, c'est par d'autres, donc par des collectifs de bénévoles qui mettent ces choses-là en place.
Tu as cité chatons, tu sais qu'à chaque fois qu'on dit chatons, après on est obligé d'expliquer l'acronyme.
Ah mince, bon.
Est-ce que tu es préparé?
Alors, je suis prêt. Donc c'est le collectif des hébergeurs autonomes, neutres, solidaires, voilà.
Alternatifs,
voilà, c'est ça.
Merci.
Et donc il y a plein de choses qui sont en place, qui existent, et que les gens peuvent utiliser gratuitement et le tout sans tracker dans tous les sens. J'ai même été aller chercher un peu plus loin qu'est-ce qui n'allait pas dans Classroom. Donc il y avait voilà, les bases de données sont chez Google, les médias sont chez Amazon, et ça c'est des trucs, même s'il y avait un bouton, on ne pourrait pas les désactiver, quoi, sinon le site ne marche plus, tout simplement.
Donc on invite tout le monde à vérifier où sont hébergées vos données, où est hébergé le service que vous utilisez. Ça peut être une bonne action à faire.
Même si c'est marqué dessus, on est conforme RGPD, c'est tout de même important de savoir que y a des boîtes qui ne peuvent pas techniquement se conformer RGPD parce qu'elles sont sur un territoire en particulier qui correspond à des lois. Il y a le Cloud Act qui oblige à donc faire de la collecte de données. Et donc oui, voilà, il y a un détail sur ça. C'est au début, j'ai essayé un petit peu de dire pourquoi c'est important la protection des données, pourquoi c'est pas juste une contrainte qui est un peu emmerdante et tout. Et j'étais pas en train de sortir les documents de Snowden à la professeure parce que je sais que c'est un truc complexe à comprendre. C'est pas évident à saisir tout le côté critique de la vie privée. Classroom, c'est avec un K, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, les problématiques de vie privée, c'est des sujets complexes qu'on ne peut pas expliquer en deux secondes. Du coup, quand on fait une réunion de 10 minutes avec un professeur, s'il ne connaît pas le sujet déjà, il ne peut y voir que des contraintes. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles à aborder avec le grand public. Ça demande du temps, ça demande de faire des recherches. Donc voilà, moi je fais de la recherche, mais tout le monde ne sait pas son métier. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, mais ça prend du temps.
Par ailleurs, je me permets de dire que des formations sont prévues effectivement pour les enseignants pour qu'ils puissent justement appréhender les enjeux liés à la protection des données personnelles. Tout à l'heure, on avait presque l'intention d'être un peu polémique avec les enseignants avec lesquels vous avez parlé, mais en fait, c'est quelque chose, comme tu disais, ça demande du temps. Et il y a des formations qui sont prévues, mais quand les enseignants peuvent participer à ces formations, c'est compliqué aussi. S'ils participent à des formations, ils doivent être remplacés. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait assez de réservistes, entre guillemets, pour pouvoir les remplacer dans les classes. Donc, en fait, voilà, il y a des choses qui sont très bien sur papier, mais après, il faut donner aussi aux enseignants la possibilité de s'approprier de ces informations. Et
pour ça, il faut donner des moyens à l'éducation, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop dans notre pays, de manière globale. Il y a même les enseignants qui n'ont pas le droit de dire du mal de comment c'est géré dans leur ministère. Voilà, donc il y a des lois comme ça qui empêchent les gens d'être informés ou de communiquer librement sur qu'est-ce qui se passe mal dans leur truc. Donc communiquer sur comment ça se passe mal, c'est un peu le point de départ de toute amélioration. S'il faut déjà se rendre compte, il y a un problème. Et si on n'est pas plein à s'en rendre compte, c'est impossible de faire avancer les choses, quoi. C'est David contre Goliath, et quand on est dedans, alors c'est peut-être plus facile de faire avancer les choses, mais de mon point de vue extérieur, il faut déjà comprendre comment ça marche pour savoir à qui s'adresser. Et ensuite, trouver les bonnes formules pour trouver les bonnes infos, communiquer avec les bonnes personnes, et ça, c'est pas évident. Alors, dans un premier temps, quand j'ai fait mon retour à la professeure, elle s'est sentie tout de suite accablée, comme quoi elle participait à faire un truc absolument horrible et que c'était atroce ce qu'elle faisait en forçant les gens à utiliser ça. Et elle était prise entre deux feux, parce que d'un côté, elle voulait répondre à un besoin des parents, et de l'autre côté, fallait qu'elle fasse un truc en plus de ses heures de travail pour répondre à ce besoin. Là, c'est comme si je lui disais ce que vous faites, c'est criminel, c'est vraiment pas sympa.
J'imagine que tu n'as pas vraiment utilisé ces termes. Je pense que tu as dit, au contraire, tu as été très propositif. Le fait de chercher aussi des alternatives, de lui dire qu'il existait d'autres choses, d'y prendre le temps de parler avec elle,
c'est une démarche propositive. Je lui ai dit, c'est pas vous que j'accuse, j'essaie de voir si c'est possible de faire autre chose. Voilà, au niveau même contrainte légale, je ne sais pas si elle a le droit d'utiliser d'autres choses. Alors, ce que j'ai fait, c'est m'orienter vers d'autres gens qui connaissent un peu mieux le métier de l'éducation. J'ai demandé au sein de l'asso Framasoft, j'ai demandé sur Mastodon, gens que je connais pas, j'ai demandé un peu partout qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. Et donc, il y en a qui m'ont dit, tu peux contacter le délégué de la protection des données, tu peux voir le ministère de l'Académie de Versailles, l'Académie machin, de ce que tu veux. Et eux, ils font des recommandations. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'imposent pas aux gens d'utiliser telle et telle solution, ils leur disent, vous pouvez faire ça. Si vous ne faites pas, tant pis, débrouillez-vous. Et même si vous voulez utiliser, débrouillez-vous. Parce qu'apparemment, les professeurs, ils se retrouvent tout seuls quand ils adoptent un logiciel. Ce que me disait l'enseignante, c'est que pour prendre en main le truc, ça lui a pris 5 heures le premier jour. Elle s'est retrouvée à minuit à essayer de mettre en place les photos, d'écrire les trucs, de comprendre comment configurer le truc. Et elle était vraiment toute seule.
Non, elle était très volontaire, finalement. Elle voulait faire quelque chose de bien. Voilà. C'est juste que elle manquait d'informations sur l'importance de faire attention à ce qu'on utilise. Je redonne la parole à Adrien pour savoir un petit peu comment ça s'est terminé finalement cette aventure. Est-ce que tu as réussi à trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice? Est-ce que tu as réussi finalement à obtenir de ne pas utiliser Zoom?
Alors moi, en plus, c'était pas vraiment le même référentiel, parce que je suis dans une université qui parle d'informatique, donc c'est des profs qui font de l'informatique au quotidien, certains sont des chercheurs, c'est leur domaine. L'une des UE où c'était le plus compliqué, donc unité d'enseignement, la matière, où c'était le plus compliqué d'obtenir un résultat, ça a été une UE de réseau, une UE même de technologie du web. Du coup, j'allais pas leur apprendre ce que c'était que le traçage ou ce que c'était qu'un cookie. Ils savent tout ça, c'est leur métier. Et justement, c'est ça apparemment qui les a le plus crispés, c'est que je viens de leur dire que c'était pas conforme à ce que moi je voulais, que j'étais pas d'accord de partager mes données personnelles avec ces outils-là, et que eux me disaient moi j'ai choisi ça et je le fais en connaissance de cause puisque c'est mon métier.
Et conséquence ça, à qui on s'adresse
pour justement, pouvoir... c'est bien le problème, puisque j'ai jamais trouvé de représentant, de délégué des données personnelles. La seule chose que j'ai pu faire, c'est aller menacer la directrice des études de poser une plainte. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle a entendu raison, elle a été parlée à l'enseignant, et j'ai obtenu ensuite un arrangement. L'enseignant m'a dit, uniquement pour l'examen, parce que là c'était dans le cas d'un examen, on voulait me faire passer sur Zoom, donc j'allais pas pouvoir faire un examen différé. Donc là on m'a fait oui, c'est ok, on va essayer de trouver un arrangement, et j'ai réussi à passer seul l'examen sur BigBlueButton pendant que tout le monde était sur Zoom.
C'est-à-dire que l'enseignante, en fait, elle a pas réagi à tes arguments, elle a réagi à la menace de plainte.
La directrice des études. Et elle a été ensuite voir l'enseignant de cette UE qui, lui, a décidé de suivre ce qu'on lui disait, c'est-à-dire évitons la plainte, faisons passer l'examen, parce que là, il n'y a pas le choix, et puis ensuite, on reviendra sur Zoom pour les cours et il se débrouillera, comme avant. Donc là-dessus, ça s'est résolu comme ça, j'ai pu passer mon examen, j'ai eu mon UE, et tout va bien. Maintenant, c'est pas fini, ça continue. Là, actuellement, je suis encore en train d'envoyer des mails pour dire je ne suis pas d'accord d'utiliser Zoom. Je suis encore en train d'essayer de convaincre des professeurs d'utiliser autre chose qu'un outil propriétaire qui, en plus, demande le consentement à l'utilisation commerciale de données personnelles. J'y arrive petit à petit, il y a certaines UE qui m'ont dit ok. Mais j'ai encore des UE actuellement qui veulent m'obliger à utiliser Zoom, même Discord. Alors là, franchement...
Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit pour Discord? Alors,
Discord, c'est tellement éloigné du principe même de l'éducation que je ne sais pas ce que ça fout là. C'est censé être un truc de chat pour les jeux vidéo. C'est vraiment rien à voir. Oui, je vois une question d'Étienne. Effectivement, j'ai sollicité les syndicats. La réponse a été « on s'en fout de ton truc, nous on veut revenir en cours, en présentiel ». C'est tout ce qu'on m'a répondu.
Ah, oh, pas cool.
Ouais. Donc, au moins une petite victoire, on peut dire. C'est-à-dire que tu as quand même obtenu de faire l'examen sur la plateforme BigBlueButton. Pour ce qui concerne Baptiste, est-ce que tu as pu obtenir quelque chose?
Ce que j'ai obtenu, c'est qu'au final, en invoquant le droit à l'image, l'enseignante ne prenne pas de photos vraiment reconnaissables des enfants. Pour montrer, pour publier des photos sur Classroom. Donc ça, c'est pas vraiment une victoire, parce qu'au final, tout le monde a été obligé de s'inscrire et va rester dessus, parce que l'enseignant continue de publier des choses dessus.
Donc toi aussi, tu as finalement ouvert un compte sur cette plateforme?
Alors moi, non, mais bon... moi, ma fille, je peux faire des photos moi-même. Quoi.
C'est, oui, bien sûr.
Voilà. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup moins de précautions quand on va se diriger vers un logiciel qui est tenu par une entreprise qui pèse 1,4 million d'euros que quand on fait intervenir un photographe dans une école. Quoi. L'enseignant, je leur ai dit, moi, j'ai une entreprise, je permets de publier vos photos. Ok, c'est cool. C'est quoi votre entreprise? C'est moi. C'est moi, je fais des photos, je publie sur mon ordinateur. Vous mettez les photos des enfants sur mon ordinateur, ça va bien se passer. Je pense que n'importe qui paniquerait si on lui disait ça. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein, mais voilà, il y a des choses, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et ça, il faut arriver à le reconnaître. C'est comme l'étendue de notre ignorance. Enfin, ça, c'est pour n'importe qui. Hein, même si on est expert dans un domaine, on ne peut pas tout savoir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer des infos à plusieurs et de remettre en question ce qu'on sait, donc la méthode par laquelle on prend des infos.
À propos de communiquer les infos, pour l'instant, on a parlé des enseignants, mais il y avait d'autres personnes qui pouvaient être des alliés dans vos démarches, c'est-à-dire les autres parents d'élèves pour toi, Baptiste.
Exactement.
Ou les autres étudiants pour ce qui concerne Adrien.
Alors oui, et pour le coup...
Avez-vous fait des démarches auprès de
Exactement.
De
Est-ce qu'on a été s'entraider avec d'autres parents d'élèves? Et pour ma part, j'ai pas trop pu, parce que du fait des conditions sanitaires, les gens s'évitent le plus possible le matin et le soir.
Donc ça, ça aide pas.
Donc voilà, on comprend, hein, mais voilà, après, nous on a le mail de l'école, mais on n'a pas les contacts des autres parents. En plus, comme on vient d'arriver dans la ville, les autres parents, on les connaît pas. Donc... l'isolement est vraiment très fort et il y a même des gens qui reconnaissent que ça cause des problèmes psychologiques à l'échelle mondiale qui sont sans précédent. Et de fait, de cet isolement, il y a des choses normales, enfin des choses qu'on devrait obtenir normalement, comme protection des données, machin. Tout ça, c'est hyper compliqué. J'avais vraiment l'impression de partir en croisade pour un truc hyper banal, en fait. Rien que de dire, j'ai pas envie qu'on se serve de tel truc pour publier des infos sur ma fille. Et tous les parents devraient pouvoir demander ça et que ce soit entendu.
Est-ce que tu as identifié un canal possible, potentiel de communication pour parler avec les autres parents? Je ne sais pas s'il y a...
Alors oui, j'ai du coup identifié d'autres choses, parce qu'au début de l'année, on s'est un petit peu mobilisé avec les autres parents pour ouvrir une nouvelle classe. Parce que quand il y a 31, 32 élèves par classe en maternelle, c'est compliqué pour les professeurs et pour tout le monde. Et donc ça n'a pas abouti. Mais on a pu ouvrir le dialogue avec d'autres parents, comme ça, et avec la FCPE. Donc la FCPE, c'est un genre de syndicat des parents qui se bat donc pour des choses diverses et améliorer la qualité de vie dans l'école. Et donc eux, voilà, je leur ai mis en place un newsgroup, alors une liste de diffusion, pour communiquer en gagnant beaucoup de temps sur la gestion des adresses. Et on a fait un petit peu comme ça communiquer. Mais voilà, j'ai pas été plus loin, parce que voilà, il y a toujours une dynamique de pouvoir et d'influence dans les groupes. Et si je disais, bah, c'est moi qui ai demandé qu'on voit pas la photo de vos enfants sur tel truc, eux, ne comprenant pas du tout le souci des protections des données, c'est ce qui arrivait en réunion de parents d'élèves, hein, ils ont dit, oh, c'est dommage, on n'aura pas des photos de nos gamins et tout.
Ouais, c'est toute la difficulté de promouvoir des outils respectueux des données personnelles, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi les sensibilités, le manque d'informations de ses interlocuteurs. Il faut amener les choses de la bonne façon, étape par étape. Et peut-être que tu ne voulais pas tout de suite rentrer...
voilà, je ne voulais pas tout de suite me brouiller avec tout le monde, donc... À ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas l'expliquer en deux secondes.
Oui, je me permets juste d'intervenir parce que je vois une question sur le salon web. J'ai vécu, enfin, ma fille a vécu exactement la même chose. Donc, c'est Cricri qui dit, enfin, une question, une remarque. Le pire, c'est que certains enfants peuvent avoir honte de parents qui ne font pas comme tout le monde. Je rappelle que, avant de vous laisser savoir si c'était le même cas, qu'un jour, ma fille, au téléphone, s'excusait d'utiliser LibreOffice. Alors qu'en fait, normalement, c'était une obligation dans l'éducation nationale. Donc, est-ce que tu as le même cas que donc, ce que signale Cricri sur le salon web?
Eh ben, j'aimerais bien, mais je n'ai pas du tout de contact avec les autres parents.
Oui. Donc, comme tu disais, tu viens d'arriver dans l'école, d'accord.
Voilà, ça fait 6 mois qu'on est dans l'école. Enfin... Et on n'a toujours pas trop pu discuter avec les autres parents. Quoi.
C'est clair que le contexte sanitaire aujourd'hui n'aide pas et espérons que ça puisse être plus facile bientôt. Adrien, par rapport à voilà, la recherche de potentiels alliés, est-ce que tu as fait des démarches dans ce sens?
Oui, j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. Hein. Je suis tombé sur le mur de WhatsApp. C'est-à-dire que vraiment, je me suis aperçu que tout le monde se parlait via WhatsApp, via Discord, via tous les trucs que je veux pas utiliser et que je refuserai toujours d'utiliser. J'ai, grâce à un professeur qui a fait une erreur, c'est-à-dire qu'il a envoyé un mail sans cacher les adresses de tous les autres élèves, j'ai pu créer une liste de diffusion. Et donc j'ai pu envoyer ma réponse au professeur qui disait « Nous allons utiliser Zoom ». J'ai envoyé la réponse à tous les élèves en même temps. Je me suis donc fait connaître. Parce qu'en fait, ils n'étaient même pas au courant de mon existence, alors que ça faisait peut-être 6 mois que je faisais mes démarches avec les enseignants. J'ai pu exposer mon point de vue. J'ai eu quelques réponses bienveillantes. Quelques-uns qui étaient d'accord avec moi, mais ne voulaient pas se lancer dans une croisade. Et puis, carrément, des réponses désobligeantes me disant que j'étais indésirable et que je les empêchais d'étudier et d'avoir leur lieu. Bon, moi, je n'aurais pas répondu à ces gens-là, hein, mais... Je me suis dit, peut-être qu'il y aurait peut-être des gens avec qui je pourrais... Non, finalement, je n'ai pas pu avoir d'allié sur ce coup-là. Si j'avais dit que je voulais rouvrir les cours au présentiel, là, par contre, j'aurais eu 100% d'alliés. Mais non, les protéger...
Ça manque beaucoup.
Les protéger d'une utilisation commerciale de leurs données sans consentement, non, ça ne touche pas assez. Et on est en informatique,
voilà,
je rappelle ça quand même.
J'ai failli le dire, on est quand même dans des études d'informatique, donc théoriquement, on devrait être les plus au courant des enjeux par rapport à l'utilisation de logiciels propriétaires ou de logiciels hébergés par des entreprises américaines, etc. Donc j'imagine que ça a dû être un peu frustrant quand même.
Alors heureusement, j'ai des enseignants, certains, hein, d'ailleurs la plupart du temps ceux qui travaillent dans les domaines de l'architecture ou du système d'exploitation, qui sont les plus sensibilisés aux logiciels libres. Certains qui voilà, sont à fond derrière la FSF, même un qui est membre de la FSF je crois,
FSF, donc la Fondation
pour le logiciel libre.
Très bien.
Américaine, hein, fondation américaine. Donc certains qui étaient vraiment à fond derrière moi, qui m'ont dit super, on te soutient. Par contre, voilà, pas plus que ça. On te soutient verbalement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller voir notre collègue enseignant pour lui dire tu ne pourrais pas faire un effort. Ça, non.
Soutien moral. Voilà, bah
soutien
oui,
moral.
Ça aussi, c'est dommage. Parce que tu as fait de la promotion du logiciel libre aussi, de la sensibilisation. Entre collègues aussi, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir des démarches de ce sens.
Mais ça, c'est le problème de cloisonnement qui existe beaucoup dans l'université, qui va de pair d'ailleurs avec l'autonomie des universités. Hein. C'est qu'en plus d'être complètement autonome du ministère de l'éducation, enfin de l'enseignement supérieur, il y a des gros conseils d'administration qui dirigent les universités. En plus, les UFR sont complètement cloisonnées entre elles, les unités de formation. Et dans les UFR, les UE sont elles-mêmes un peu cloisonnées. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ne parlent pas beaucoup entre eux, certains qui sont dans des laboratoires différents. Du coup, bah, ces laboratoires, ils sont peut-être pas à côté, ils sont peut-être à l'autre bout de la fac, on sait pas trop. Et ces gens parlent pas beaucoup. Ceux dans une même UE se parlent. Et encore, quand c'est pas entre contractuels, parce que là, les contractuels, apparemment, ils parlent à personne.
C'est vraiment dommage. Il n'y a pas, en fait, des moments, des lieux de rencontres, d'échanges, alors qu'on penserait que dans l'éducation, c'est une chose importante aussi d'échanger son point de vue avec ses collègues. Je pense que c'est même primordial, quoi, pour avoir d'autres points de vue, pour réfléchir à comment on enseigne, à comment on peut s'améliorer. Donc, il y a aussi des enjeux liés à l'organisation même.
Et puis aussi, peut-être un autre enjeu qui est celui, peut-être, je sais pas, de l'enrichissement personnel des enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que certains manquent peut-être de culture. Je vois, par exemple, des enseignants de technologie du web qui ne connaissent pas la différence entre le logiciel libre et l'expression libre de droit. J'ai eu cet exemple, une professeure de technologie du web qui m'a dit « Ah oui, vous voulez parler de ce logiciel libre de droit ?» Je leur dis « Pardon, non, je parle de logiciel libre. » Et en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Du coup, je me demande peut-être que c'est l'éducation qu'ils ont eux-mêmes suivi, le cursus qu'ils ont suivi, qui leur a jamais appris. Ou, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre dans cette recherche-là. Donc, moi, je m'interroge si vraiment il y a besoin de faire de la formation informatique à des profs d'informatique, c'est qu'il y a un problème dans leur cursus.
Ça pourrait être intéressant. Hein. Il y a bien un cursus spécial pour... il y a un truc qui parlait d'essayer de faire du OpenStreetMap, éduquez-vous à la protection des données, ça c'est inscrit dans les logiciels, les programmes pour apprendre au lycée. Il y a un cours spécialement pour ça, j'avais regardé son programme, il y a des choses qui sont vraiment sympas. C'est beaucoup mieux que ce que moi j'avais eu quand j'étais au lycée, où il y avait le brevet informatique internet qui disait, voilà, vous savez faire un tableur, vous savez chercher, enfin écrire un truc dans une page web, c'est bon, vous êtes calé. Et encore à l'époque, on se méfiait beaucoup plus de ce qu'on pouvait trouver sur Internet. On disait « Attention, c'est dangereux, publiez pas des infos sur vous, faites gaffe quand vous mettez des photos. »
C'est vrai, il y avait le principe de prudence qui...
Il y a une prudence qu'on ne retrouve pas du tout aujourd'hui. Il y avait même les gens qui étaient beaucoup plus sensibles à se dire « Tiens, moi je peux publier des choses, tout le monde a voix au chapitre. » Il y avait même des gens qui étaient extrêmement techniques et qui disaient « Moi j'ai un blog. » Il tourne sur mon ordinateur. C'est pas une autre machine quelque part qui le fait tourner. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Mais dis-moi, comment ça marche le cloud ? Il y a vraiment un truc avec les nuages ? Il y a des fils reliés à des nuages ? Il y a des tours ? Comment ça se passe ?» Non, désolé, le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
C'est bien d'évoquer ça, parce que comme on le disait au début de l'émission, en fait, il y a les informations, il y a des sites, il y a des formations qui sont prévues pour les enseignants et pour les élèves. Peut-être que on fait pas assez pour que finalement on s'assure que la formation passe. Il y a.
Oui, en fait, je voudrais réagir à une question. Qui est que, en fait, d'accord, il y a une petite différence entre logiciel libre et respect de la vie privée et des données personnelles. Sauf qu'on ne peut pas être sûr qu'un logiciel respecte vraiment la vie privée et les données personnelles, en tout cas nos choix en termes de données personnelles, si le logiciel n'est pas libre. La seule façon de pouvoir étudier le fonctionnement du programme, et peut-être même le modifier si jamais ça ne va pas, c'est que le logiciel soit libre. Donc c'est différent, mais en fait c'est complètement lié.
C'est le premier brique, c'est le brique nécessaire pour...
Tout à fait.
Donc notre échange est presque fini. On a encore quelques minutes et je voulais savoir si vous pouviez nous dire qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, les aspects positifs, négatifs pour conclure notre discussion.
Bon, alors, dans les aspects positifs, je ne me concentrerai pas sur le négatif, je vais parler que de positif.
Très bien.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des alternatives. Elles existent. Elles sont partout. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est les présenter, essayer de sensibiliser, dialoguer. En fait, le dialogue, c'est la première chose qu'il faut faire. Il ne faut pas s'énerver. Il faut commencer par dialoguer et présenter ce qui existe. Ensuite, quand on a peut-être un terrain d'entente, on en profite pour aller encore plus loin et présenter des choses encore mieux. On commence par le petit, dire voilà, on a la possibilité de faire ça pour un cours, peut-être pas pour tous. On présente des alternatives qui marchent pour certaines choses à faire pendant l'UE, mais on parle pas de tout de suite. Et petit à petit, si on voit que l'enseignant réagit plutôt bien, on peut lui présenter carrément la solution complète où on peut faire tous les cours sur des logiciels libres. Et s'il est d'accord, tant mieux, tout ira bien. Dans les alternatives qu'on a, on a évidemment celles qui sont déjà installées par les universités, ça existe, il y a des fois des ENT, des environnements numériques de travail, qui ont des systèmes de logiciels libres tout à fait utilisables pour les cours, Sinon, bah, on peut se tourner vers les chatons, qui ont des choses qui sont très bien. Moi, je n'ai pas envie de faire encore du prosélytisme, mais il y a Chapril. Hein. Chapril existe.
C'est la contribution de l'association April au collectif Chatons, en fait. Voilà.
Et sinon, bah, y a évidemment les services du CNRS qui fonctionnent aussi très bien.
Quelle sera ta prochaine démarche
Là, actuellement, je suis en train de lutter encore contre Zoom, contre une UE de technologie du web. Je leur ai proposé le service du CNRS, j'attends une réponse.
D'accord.
Bon. Puis si ça ne marche pas, bah, je vais encore aller voir.
Tu me tiendras au courant.
Voilà. On remontera encore plus haut, c'est tout.
Ça marche. Baptiste, un petit bilan, point positif surtout.
Oui, alors, en bilan, il faut toujours se poser des questions lorsqu'on inclut un intermédiaire technique dans son flux de travail. Lorsque les gens entrent dans une cage dorée, ce n'est pas parce que c'est une cage, c'est parce qu'elle est dorée. Et donc, c'est essentiel de se poser les bonnes questions quand on manque de temps, quand on n'a pas le temps de chercher beaucoup de choses, il faut pouvoir s'entraider avec les autres. Et voilà, donc moi, je suis super content d'avoir déjà reçu beaucoup d'aide de la part des autres personnes que j'ai sollicitées. Et voilà, donc j'ai pu trouver le délégué à la protection des données, et je retire de ça qu'il n'y a pas tant d'efforts à faire que ça pour obtenir des choses vraiment concrètes, des choses vraiment utiles dans la défense des libertés des gens, et qu'on puisse un peu plus voir sur le long terme.
Pas mal la métaphore de la cage dorée.
Voilà. C'est pour ça que
je la réutiliserai.
C'est aussi important d'avoir des beaux logiciels pour attirer le chaland.
Très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aurez voulu répondre? Non, on me dit qu'il y a, une minute de temps, donc je vous propose de faire un message, le mot de la fin, un message pour conclure notre échange en 20 secondes chacun.
Ok, un gros soutien à tous les gens qui bossent dans l'éducation, parce que c'est franchement pas facile, surtout en ce moment, et il y a des gens qui sont volontaires, je tiens à souligner que ça existe, des gens qui veulent vraiment faire du libre, parce qu'ils ont compris, ils sont sensibles à toutes ces valeurs.
Je crois me rappeler d'ailleurs que tu as trouvé une école qui voulait faire une démarche.
J'ai une école et d'autres organismes qui veulent mettre en place des choses libres.
C'est pas l'école de ta fille?
C'est pas eux, non, malheureusement.
Mais voilà, ils ont envie de se libérer, voilà. D'un point de vue informatique. Très bien. Adrien ?
Non, mais moi je crois que j'ai à peu près tout dit, mais on peut toujours reparler encore de Chapril et dire que on a des services qui peuvent aider, visio.chapril.org, qui permet de faire des visioconférences. Il y a encore chez les chatons Big Blue Button de Ethic IT qui permet donc de faire des visioconférences adaptées à l'éducation avec un tableau blanc intégré, possibilité de présentation, de partage d'écran, qui permet d'avoir beaucoup d'utilisateurs en même temps, ce que permet pas toujours le logiciel Jitsi. Donc ça aussi à conseiller. Mais si on veut vraiment être dans les clous pour l'éducation, c'est mieux d'utiliser les instances faites par les universités ou celle du CNRS. Celle du CNRS est parfaite pour ça. Je la conseille à tous les enseignants qui n'auraient pas ça dans leur université, aller sur MathCNRS. J'ai envoyé l'adresse un peu plus tôt dans le salon web.
On va la rajouter dans la référence.
greenlight.lal.cloud.math.cnrs.fr. Oui, l'URL est super.
Si je pense que quelqu'un a réussi à noter, on mettra les références sur le site de l'April et de la radio.
Merci beaucoup pour ce rétro d'espérance et pour vos démarches. Les logiciels libres et respectueux de données personnelles sont un peu loin d'être encore la norme dans les établissements éducatifs, mais on a vu ensemble que les choses commencent à bouger et il y a des alternatives. Et vous avez contribué à faire bouger les choses avec vos actions de sensibilisation. Donc merci à vous pour ça et merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à tout le monde.
Eh bien, écoutez, merci à vous trois. Donc, le sujet principal, c'était les démarches pro-libres dans l'éducation, donc avec Isabella Vanelli, Adrien Bourmeau, Baptiste Lemoine. Donc, on a déjà parlé de Chapril, mais je vais rappeler, donc, chapril.org, vous trouverez différents services libres et loyaux. On a parlé de visioconf, d'audioconf, de messagerie instantanée pour sortir de WhatsApp, si vous voulez, pour gérer des événements avec Mobilizon. Et en plus, les deux animateurs de ce service sont en face de moi, hein, Baptiste et Adrien. Vous pouvez aussi créer un sondage. Et plus globalement, l'ensemble des structures qui proposent des services libres et loyaux, c'est Chatons, avec un s.org, n'hésitez pas à y aller. Et pour finir, pensez à mes trois profs préférés, Coralie, Émilie et Cécile, qu'elles profitent bien de leur repos bien mérité actuellement. On va faire une pause musicale. Alors, on va encore bouger dans un autre style dans cette pause musicale. Nous allons écouter Eger par Stone from the Sky. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée, coup de cause commune, la voix des possibles.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Eger par Stone from the Sky, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. On avait fait il y a 2 ans, si je me souviens bien, une interview de Dimitri de ce groupe qui est un groupe français. Donc vous retrouverez sur le site de l'april.org et sur Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons passer donc au dernier sujet avec la chronique La Pituite de Luc. Alors comme vous le savez, depuis toujours, Luc est présent par téléphone. Et là, j'ai l'impression que j'ai un variant de Luc, parce que la dernière fois que j'avais vu Luc, il n'y avait pas de lunettes. Là, donc c'est un variant à lunettes. Bonjour Luc.
Salut Fred. Et ouais, je suis physiquement présent. Mais tout cela n'est-il pas une grosse illusion ? Nous ne sommes qu'une infime partie de multivers en interaction entre eux, et tout ça est tellement au-delà de notre capacité de compréhension que j'ai bien du mal à affirmer que je suis là dans ce studio. C'est Michel Onfray qui m'a ouvert ses nouvelles perspectives il y a quelques mois. Il m'a appris que notre univers n'est qu'une petite bulle de bain moussant. Il l'a expliqué en conférence, et je le cite précisément. Donc, un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements, les blocs de bulles et de tous les mouvements browniens, toute la physique quantique, enfin tous ces scientifiques qui un jour ont dit « évidemment, ce qui bouge ici bouge là, parce que là-bas, il y a un truc qui a bougé. À 10 milliards d'années-lumière, il y a eu ça, ça a produit un effet d'onde gravitationnelle. » Fin de citation. Alors, pourquoi, comment ? On ferait conclu, eh bien, c'est ainsi. Moi, je trouve ça brillant. Donc, inspiré par le philosophe en peignoir de bain, je fais mon coming out. Voilà, je suis suprémaciste. Alors non, je ne suis pas de ceux qui prouvent leur infériorité personnelle en défendant la supériorité de leur groupe génotypique. Je parle de suprématie quantique. Macron met 1,8 milliard sur la table pour l'atteindre. C'est puissant la suprématie, moi ça me fait le kiki tout dur. Je me souviens avoir pouffé étant enfant quand mon père avait vanté les 16 bits du TI-99-4A qu'il avait ramené à la maison. Il m'avait sermonné, c'était trivial de ricoler sur les bits, c'est un mot anglais et un concept essentiel qu'il fallait plutôt comprendre. Je l'ai écouté et rangé les bits dans le coin de mon cerveau dévolu au sujet pas drôle en fait. Maintenant c'est le 21e siècle, je suis vieux, et l'informatique quantique pointe le bout de son nez. Et avec des qubits. Alors bon, pour moi c'est de la provocation, cette fois on m'aura pas, je vais faire des blagues pourries et compenser des décennies de frustration. Qubits. Qubits. Voilà, c'est dit. Sinon j'ai décidé que j'en serais. J'ai raté l'opportunité du cloud souverain il y a quelques années, les millions du grand emprunt se sont évaporés dans les poches des grands groupes français et je ne suis pas devenu richissime. J'envisage donc de travailler sur l'intrication quantique entre les hauts fonctionnaires et les grands groupes du CAC 40. Je vise à détecter une nouvelle particule qui s'appellerait le pognon de Higgs. Je travaille sur la théorie du pantouflage quantique qui consiste à considérer un énarque comme une onde qui se révèle être une particule soit dans le secteur privé soit dans le secteur public quand on l'observe. Pour me mettre à niveau en matière de trucs quantiques, j'ai déjà commencé à envoyer des colis avec des chatons dedans. Ça marche super bien, au moment où le colis est ouvert, soit je me fais insulter en retour, soit je me fais dénoncer à la SPA. Faut dire que je reviens de loin, hein. Je suis un repenti. J'avais longtemps essayé de faire reconnaître au monde le point incroyable Luc ou point Iluc. C'est un peu comme le point Godwin dans un domaine différent. C'est l'idée que toute discussion métaphysique a une probabilité croissante de se référer à la physique quantique. Une fois rendu à ce point, la discussion est définitivement stérile, car tout est dans tout et inversement. Mais j'ai changé. Je ne vais plus chez le médecin, je me soigne avec la thérapie quantique. C'est un truc de précurseur, hein, car dès les années 70, il a été postulé par Fritz Albert Popp, c'est un Allemand, que les cellules émettent des biophotons qui génèrent un champ d'énergie à l'intérieur et autour du corps humain. Maintenant, quand j'attrape une chlamydia, je vais voir un praticien quantique dont l'énergie va entrer en communication avec le champ informationnel et vibratoire de mon appareil urinaire. Ça remet d'aplomb la communication électromagnétique intercellule et paf, je suis soigné. Mais pour vraiment gagner des sous et tirer profit de la cagnotte de Macron, il faut anticiper le tsunami de buzzwords et de foutaises quantiques qui vont nous tomber dessus. C'est maintenant qu'il faut réserver les noms de domaine quantique digital, internet quantique, cloud avec un gros Q, quantum leap, Qpad, Qphone. Bon, QAnon est déjà pris. Et il y aura nécessairement un remake de la série Code Quantum. Mon conseil, achetez des actions Scott Bakula, ça vaudra une blinde dans pas si longtemps.
Bah écoute, merci Luc, et comme dit... sur le salon web Tuxa Degjeps, j'arrive pas à le prononcer, excuse-moi, qui dit « Je ne sais pas ce que tu prends, Luc, mais il en veut, visiblement. » Donc...
Rien du tout. C'est...
Alors, je confirme en plus, pour bien connaître Luc, effectivement, qu'il ne consomme aucune substance
c'est
de ce genre.
C'est
complètement quantique. Et on va rappeler donc Scott Bakula, dont tu cites à la fin, c'est ce chercheur ou ce médecin quoi, qui voyageait dans le temps, rentrait dans le corps de personnes pour les arranger leur
de
vie.
De la grande série, oui.
Voilà, et en espérant un jour pouvoir revenir... À sa propre époque, si je me souviens bien.
C'est ça, oui, c'est une citation de Vivant encore. Hein,
exactement. Mais je ne sais pas lequel de nous deux, je ne me souviens plus. plus les plus vieux, mais en fait, bon.
Je crois que c'est toi quand même.
Oui, je crois que c'est moi, malheureusement. Je crois qu'on a juste. Alors, si on reçoit. Je précise pour le signalement CSA que vous envoyez un mail à contact@april.org. On transmettra à Luc pour les signalements CSA. Juste que je vois qu'on a un tout petit peu d'avance, ou en tout cas, il nous reste un tout petit peu de temps. Luc, au-delà de ces chroniques que on a la joie d'avoir dans Libre à vous, chaque lundi soir, je crois, tu enregistres des cryptualités avec notamment Manu et de temps en temps Magali.
Oui.
Est-ce que tu peux juste nous rappeler voilà, rapidement ce qu'est Décryptualité et comment on peut l'écouter?
Alors, déjà, on peut l'écouter sur Cause Commune, hein, puisque voilà, c'est rediffusé ici. C'est donc un podcast qu'on fait essentiellement avec Manu. Manu fait une sélection d'articles pour la revue de presse de l'April. Donc, on la présente dans les premières minutes du podcast, hein, qui fait 15 minutes. Et ensuite, on va prendre un sujet qu'on va essayer d'approfondir un petit peu plus. Alors bon, en 12-13 minutes, c'est pas ultra profond non plus. Donc soit lié à l'actualité, soit un truc un peu général. Le podcast est repris donc ici. Il est repris également sur des radios dans le sud, hein, du côté de Millau et de Toulouse. Et sur le site de l'April, bien sûr, où on le publie. Donc tous les lundis soirs, un peu après minuit en général. Donc voilà, c'est un truc qu'on fait depuis un petit moment maintenant.
Et donc voilà, en 15 minutes, vous avez sur une première partie un petit peu de la revue de presse autour du logiciel libre. Et ensuite, un sujet, comme c'est publié le mardi, c'était lié autour du Covid et des brevets, avec notamment en référence deux articles. Je ne sais pas si les deux ont été publiés dans Le Monde, mais là, en tout cas, par Gaël Cricorian, qui parle des possibilités de suspendre les brevets sur le Covid, et un autre article qui dit exactement l'inverse. Je ne sais plus dans quel journal, mais en tout cas, vous en avez parlé avec Manu, tous les deux.
Tout à fait.
Donc, je vous encourage. Donc, c'est le Décryptualité. Donc, c'est chaque mardi sur april.org et c'est diffusé sur Radio Cause Commune et sur d'autres radios, dont notamment les radios dans le Sud. Eh bien, écoutez, nous allons passer aux annonces finales. Et puis, merci Luc. Excuse-moi.
Non, merci.
Alors, nous allons faire les annonces finales et je vais essayer de finir dans les temps, contrairement à la semaine dernière. Alors, c'est bientôt le printemps ici et vous allez pouvoir sortir, faire la... avec un certain nombre de respect. Mais en tout cas, nous venons de relancer l'initiative Libre, en fait. Donc, pour accompagner l'arrivée du printemps, des événements de découverte de logiciels libres, la culture libre autour du 20 mars, sur le site libre-en-fête.net. Alors, nous ne savons pas, évidemment, actuellement dans quelles conditions sanitaires les événements seront organisés. Donc, nous encourageons les organisations souhaitant participer à l'initiative Libre, en fait, à prévoir quand c'est possible des événements de secours en ligne avec les fameux merveilleux outils de visioconférence dont on a parlé tout à l'heure. Je rappelle également qu'il y a librealire.org, un nouveau site web qui concerne les transcriptions autour des libertés informatiques, plus de 800 transcriptions. Donc nous avons ouvert ce site il y a quelques semaines. N'hésitez pas à vous rendre sur le site librealire.org. Ma collègue Isabella Vamini, parmi les nombreuses activités, anime le groupe sensibilisation de l'April qui va se réunir de nouveau en ligne jeudi 18 février 2021 pour continuer le travail sur le fameux jeu pédagogique, le jeu du GNU. Nos amis de Parinux, dont parlait Luc tout à l'heure, mais c'était hors antenne en fait. peu importe. Donc Parinux.org organise chaque jeudi soir également les soirées de conversation autour du logiciel libre. Donc c'est à partir de, je sais plus, je crois que c'est 20h30 et ça commence à 21h. Et jeudi soir, le sujet sera vigibati.fr. Donc c'est rendre l'open data accessible pour la veille des projets de BTP, donc bâtiments et travaux publics. Donc une présentation autour de ça. Donc à partir accueil à 21h30 et présentation à partir de 21h. Et la réunion du groupe sensibilisation, c'est à, je ne l'ai pas noté, j'ai fait une erreur, 17h30 ? Exactement 17h30, ouais super la mémoire que j'ai. Voilà, j'ai vu aujourd'hui aussi un site intéressant, on en a parlé tout à l'heure, des conditions générales d'utilisation. Si vous ne lisez pas les CGU, donc les fameuses conditions générales d'utilisation, vous pouvez même désormais repérer ce qui a changé sur ces fameux sites avec un nouveau site qui s'appelle Scripta Manant. On mettra les références sur april.org et sur causecommune.fm. C'est un outil mis en place par les services de l'ambassadeur du numérique Henri Verdier. Henri Verdier que nous avons interviewé dans Libre à vous le 5 janvier 2021. Donc c'est un site, même si vous ne lisez pas ces conditions générales d'utilisation, vous pouvez voir les évolutions. Et évidemment, ça va aussi intéresser les journalistes, les sociologues, les responsables politiques. Et donc c'est mis en place et l'outil qui gère ça derrière est un outil en logiciel libre. Donc voilà, conformément à la pratique prônée par Henri Verdier. Donc, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je vais rappeler que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio si vous voulez réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. Et ce coup-ci, j'ai le bon numéro. Donc, le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je vous rappelle que la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, donc c'est sur la bande FM 93.1 en Ile-de-France, de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi à 16h, et de dimanche de 14h à 22h, parce que c'est en temps partagé avec Radio Aligre. La radio diffuse également 24h sur 24 en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. D'ailleurs, pendant les vacances actuellement, ce soir à partir de 19h, il y a notre camarade Valentin qui anime une émission toute la semaine, Tintamarre, une émission musicale qui vous fait découvrir ses pépites libres. Et Valentin vraiment connaît beaucoup de choses en musique. Ensuite, à 22h, si je ne me trompe pas, c'est l'ami Karim qui prend la suite pour une antenne libre de 22h à minuit, je crois. Donc il y a un sujet chaque soir et surtout vous appelez, vous pouvez échanger avec lui, il va faire ça au moins pendant l'ensemble des vacances, donc n'hésitez pas vraiment à écouter. Et il y aura peut-être d'autres émissions qui vont arriver dans les semaines qui viennent ou voilà, plus ponctuellement. Alors, la musique se démarre, merci, je vais remercier d'ailleurs directement en régie le duo qui s'est interverti à chaque fois, donc Adrien et Étienne en régie, Adrien Bourmont et Étienne Gonu, donc Adrien qui a fait à la fois l'intervenant et le régisseur. Donc notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Isabella Vanni, Vincent Calam, Adrien Bourmont, Baptiste Lemoine, Luc en présence au studio. Un merci également à toute l'équipe de post-production des podcasts, donc Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Imbert, Languin, Olivier Grieco. Merci également à Quentin Gibault qui découpe les podcasts en sujets individuels. Vous retrouverez sur le site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm une page web avec toutes les références utiles parce qu'on en a cité beaucoup. N'hésitez pas également à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la Radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 février 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'engagement pour le logiciel libre de deux collectivités, Louroux de Bouble et Ladevèze Rivière. Le sujet sera animé par mon collègue Étienne Gonu, deux collectivités dont l'engagement a été récemment salué par un label Territoire Numérique Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 23 février et d'ici là, portez-vous bien.